Hello, bienvenue dans le podcast Célibataire, ce podcast à vocation à t'aider à mieux vivre ton célibat. Moi, j'ai pas mal souffert du fait d'être célibataire et petit à petit, j'ai trouvé des choses qui m'ont aidé à être beaucoup moins dans la souffrance par rapport à ça. Et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à souffrir de ça, donc j'ai créé ce podcast pour interviewer d'autres personnes qui viennent parler de leur célibat, chacun à leur manière. Et aujourd'hui, on reçoit Laura, 24 ans, célibataire depuis un an et demi. Je vais la laisser un peu plus se présenter et on est parti pour une belle interview.
Salut Laura, bienvenue dans le podcast Célibataire. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un peu ta situation de célibataire? Est-ce que tu as déjà été en couple ou pas? Et ton âge?
Oui, alors j'ai 24 ans et je suis célibataire depuis environ un an et demi. Alors avant ça, en fait, j'ai été en couple sur une période de 5 ans, donc avec deux personnes différentes en fait, avec une personne pendant un an et demi et après une autre personne pendant 3 ans et demi. Et donc j'ai connu en fait des périodes de célibat, mais plutôt quand j'étais au collège et au lycée, donc pour moi c'est pas la même chose que d'être célibataire à 24 ans.
Ok, en fait c'est une question que je voulais te poser parce que tu m'avais dit ça. Pour toi, c'est quoi la différence entre être célibataire au lycée ou au collège et être célibataire à l'âge adulte, on va dire, à 24 ans, dans la vingtaine?
Je sais pas, au collège et au lycée, on se projette peut-être moins dans l'avenir. Alors que là, en étant à l'âge adulte, en fait, je vois qu'autour de moi, la plupart des personnes qui ont mon âge sont en couple. Et c'est le moment où on commence à faire des projets, à s'installer ensemble. Il y en a qui ont des projets de mariage, de se paxer. Et j'aimerais bien, moi aussi, en fait, avoir des projets avec quelqu'un.
Tu penses que si tout ton cercle d'amis était célibataire, tu aurais quand même cette envie d'avoir des projets avec quelqu'un là à ton âge?
Oui, je pense malgré tout, mais c'est vrai que si tout mon cercle d'amis était célibataire, la situation serait peut-être un peu moins difficile. Enfin, ça rendrait les choses plus simples, je pense, pour certains aspects.
Est-ce que tu as déjà eu des remarques, que ce soit de ton cercle amical ou de ton cercle familial par rapport à ça, ou c'est toi vraiment qui portes ce regard-là?
Non, mon entourage par rapport à ça, ils font pas spécialement de remarques désagréables. C'est vraiment moi en fait qui ai envie d'être en couple. Après, c'est vrai que plusieurs fois, ma grand-mère par exemple, elle me disait: alors, ça y est, t'as trouvé un copain? À chaque fois, je disais non, c'est pas la peine de me poser la question toutes les semaines. Le jour où j'aurai quelqu'un, je te le dirai.
Et donc, tu dis, c'est moi qui ai envie d'être en couple, vu que tu as connu le couple. C'est quoi qui t'attire dans le fait d'être en couple? C'est quoi qui fait que tu as envie d'être dans cette situation-là?
Quand on est en couple, en fait, ça permet de faire des choses à deux. Alors, ça me dérange pas de faire certaines choses toute seule. J'apprécie même la solitude à certains moments. Par exemple, quand je suis le soir chez moi, dans mon plaid, devant une série, ça me dérange pas d'être toute seule. Mais il y a d'autres activités que j'aime bien faire à deux, comme simplement aller au ciné, aller faire un resto, par exemple, aller faire du sport, se prévoir des vacances à deux. Ce genre de choses, c'est le fait de partager, en fait, des choses avec quelqu'un et d'avoir une relation privilégiée en fait. Alors après, si je sais pas si je pars plus loin là-dedans ou pas.
Vas-y, ouais.
C'est aussi le fait en fait de sentir qu'on est important pour une personne et de savoir qu'il y a quelqu'un sur qui on peut compter en fait quasiment en permanence et on sait qu'il sera là pour nous soutenir. Juste une personne pour le soir raconter sa journée, dire: oh, aujourd'hui j'ai une collègue, elle m'a saoulée. Ce genre de choses.
Moi en ce moment je porte beaucoup une grosse réflexion en fait sur ces choses qui nous attirent dans le couple et sur comment finalement on peut les obtenir en tant que célibataire, en fait un peu de dissocier finalement la chose qu'on vient chercher dans le couple de la personne qui nous l'apporte, enfin, et tu vois, de se dire peut-être que ça peut être apporté par quelqu'un d'autre que le couple. Donc par exemple tu vois, aller sur ce qui est vraiment être à deux pour les activités, typiquement en développant son cercle social, tu vois, on peut trouver quelqu'un avec qui aller au ciné, trouver quelqu'un avec qui aller au resto, pas forcément la même personne à chaque fois, enfin voilà, ceux qui sont motivés. Donc, on va dire, cette partie-là peut être apportée. Après, ce que tu dis sur pouvoir raconter sa journée, par exemple, en colocation, enfin, ça dépend de tes colocs, mais moi j'ai vécu ça en colocation avec... on était deux et la personne avec qui je vivais, tous les soirs, j'entrais et je lui racontais ma vie. Et c'est vrai que c'était vraiment un truc qui, moi, me plaisait. Enfin, j'adorais ce moment-là et pourtant, on n'était pas du tout ensemble. Mais c'est vrai que ça a comblé, on va dire, ça a nourri cette partie-là. Et après, sur le côté compter toujours sur, enfin, pouvoir toujours compter sur cette personne et qu'elle soit toujours là. Bon, bah, parfois, quand on a vraiment de très, très bons amis, on peut avoir ces personnes. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est là qu'il y a peut-être le truc le plus difficile. C'est que moi, par exemple, à Noël, le jour de Noël, il y a eu un peu une dispute, enfin, un truc dans ma famille. Et il y avait une conversation négative qui tournait. Et moi, je sentais que j'avais vachement besoin d'extérioriser à l'oral par rapport à ça. Sauf que je n'avais pas envie de le faire avec les gens qui étaient là parce que ça les touchait aussi. Et du coup, là, j'aurais trop voulu avoir quelqu'un à qui le dire. Et j'avais deux amis à qui j'ai un peu énoncé le truc. Mais tu vois, je me disais, je ne peux pas me permettre de un peu leur gâcher leur Noël et genre les appeler maintenant. Enfin, voilà, on n'est que amis, quoi. Donc, la question que je voudrais te poser par rapport à du coup ce que je viens de dire, c'est pourquoi est-ce que toi, tu veux chercher ça dans le couple? Et est-ce que tu envisagerais de le trouver en dehors de la cellule couple?
Ben, alors j'ai des amis, j'ai quand même un cercle social assez important, mais c'est vrai que j'ai remarqué depuis que je suis célibataire, parce qu'avant je vivais pas ces situations du coup, que les gens ils sont pas forcément disponibles, ou alors au contraire ils veulent pas forcément se rendre disponibles. Et puis là, je suis dans une ville où j'ai plus forcément énormément d'amis. J'ai des amis qui sont dans d'autres villes un peu plus éloignées, donc faire des choses à plusieurs quand les gens sont loin, c'est pas forcément évident. Et les gens qui sont là, on se rend compte qu'en fait, c'est pas vraiment des vrais amis parce qu'ils se rendent pas disponibles en fait quand tu leur proposes de faire des choses. Donc là, c'est vrai qu'en ce moment, je travaille un peu à développer mon cercle social, à rencontrer d'autres personnes qui ont peut-être les mêmes envies que moi et qui sont disponibles et qui sont pas, ce week-end, je suis avec mon copain, machin, donc je peux pas venir au ciné. Donc voilà, en ce moment, c'est plutôt chercher en fait à trouver d'autres amis qui correspondent en fait un peu à mes besoins à ce niveau-là.
Ok, enfin, moi je trouve que en tout cas par rapport à cette réflexion tu vois, sur comment combler ses besoins en étant seul, je pense que entre guillemets on n'a pas trop le choix, il y a un peu que comme ça qu'on peut y arriver parce qu'effectivement si t'es entouré de gens qui sont pas motivés, tu te retrouves tout seul. Après il y a aussi je pense qu'on peut aussi étendre la partie des choses dans lesquelles ça nous dérange pas d'être seul. Par exemple, moi, avant, aller au ciné ou au resto toute seule, je ne l'aurais pas envisagé. Et en fait, alors ça, j'ai l'impression que c'est au fil des années. Donc, c'est, tu vois, c'est avec l'âge que ça… Enfin, là, j'ai que 29 ans, mais c'est plus que 24, tu vois, que ça commence à venir. La dernière fois, quand c'était encore possible avant le deuxième confinement, j'étais allée à un spectacle toute seule. Et je me suis dit, en fait… je m'en fous, il y avait personne qui avait envie de venir. Enfin, j'ai proposé qu'à une personne, elle n'avait pas envie de venir, mais moi, j'avais trop envie de voir ce truc et je suis trop contente d'y être allée. Mmh. Et tu vois, il y a des petits trucs comme ça où finalement, je trouve que c'est moins dérangeant d'être seule. Enfin, en fait, j'ai un peu appris à faire ces choses seule aussi. C'est comme moi, j'envisageais toujours une balade ou aller faire du vélo à deux ou à plusieurs. Et là, maintenant, clairement, j'y vais toute seule et au moins, tu n'as pas la contrainte de devoir… te calquer sur les horaires de quelqu'un d'autre, sur le rythme de quelqu'un d'autre. Tu pédales à la vitesse que tu veux, tu t'arrêtes quand tu veux pour prendre des photos.
Ou pour faire une pause.
Donc, là, je dis ça plus pour… j'en profite pour glisser un peu des trucs, tu vois, auxquels je réfléchis en ce moment. Mais en tout cas, moi, je trouve que tu es plus dans la bonne démarche. Qu'est-ce qui te gêne vraiment? Comment tu vis ton célibat aujourd'hui?
Alors, je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu viens de dire avant. Alors, c'est vrai que, avant le confinement, j'ai pu tester une fois d'aller au cinéma toute seule et effectivement, c'était pas si terrible que ça. Et même, j'ai apprécié, en fait, d'être plus à fond dans le film que si j'avais été avec une autre personne. Mais par exemple, ce qui est pas évident dans le célibat, je trouve, c'est qu'on se retrouve confronté à certaines situations qu'on doit gérer toute seule. Et on n'a pas vraiment une personne sur qui compter. Là, par exemple, là, je déménage, donc je dois me débrouiller pour tout, en fait, pour faire mes cartons, pour faire les démarches administratives. Et donc, ce week-end, je suis allée à Alinéa pour trouver des meubles et je regardais autour de moi et tous les gens, ils étaient en couple. Il n'y avait pas une personne qui était seule. Moi, je me disais, mais je suis vraiment la pauvre fille qui est toute seule au milieu de tous ces gens qui vont choisir leurs beaux meubles pour leur bel appart à deux.
Du coup, enfin, comment tu te sens par rapport à tout ça?
Alors oui, je le vis pas très bien, en fait, je le vis mal, même, je dirais. Il y a des périodes où je suis vraiment, on va dire, un peu au fond du trou, je suis super triste, il y a des jours où je pleure beaucoup. Et après, il y a des périodes où ça va mieux. Là, je trouve que ces dernières semaines, ça commence à aller mieux, mais il y a quand même des moments où forcément, il y a des petits coups de blues. Mais je trouve que, en fait, à force de travailler sur soi, on commence à mieux l'accepter. Mais ça n'exclut pas qu'il reste des moments, en fait, où c'est difficile et on s'en triste.
Dans les moments où tu te sens triste, enfin, en gros les bas, les creux, on va dire, dont tu parles, c'est quoi les pensées principales qui te traversent et qui te rendent triste?
Je suis toute seule, je suis pas capable d'être aimée par quelqu'un d'autre, je suis pas capable d'être importante pour quelqu'un. C'est pour moi vraiment des pensées en fait d'auto-dévalorisation, quoi, de me dire que je vaux pas la peine et que c'est pour ça que je suis pas avec quelqu'un que je trouverai jamais.
Est-ce que quand tu étais en couple, t'avais ce sentiment de je suis capable d'être aimée?
Ouais, à fond, parce qu'en plus j'étais avec quelqu'un qui était vraiment très amoureux de moi, et donc il n'y avait aucun doute là-dessus, et c'est même moi qui ai mis fin à la relation parce que j'avais plus de sentiments, et je sais que quand je l'ai quitté, ça a été difficile pour lui. Bon, tant mieux pour lui, il a retrouvé une copine, mais c'est vrai que ça me. Je suis un peu dégue quand même de voir que lui, il a réussi à se remettre en couple alors que moi, c'est pas mon cas, mais bon, c'est moi qui ai mis fin à cette situation, donc j'assume quand même que ça se passe comme ça.
Entre du coup la séparation et maintenant, donc les 1 an et demi de célibat, est-ce que tu as rencontré des personnes qui te plaisaient? En gros, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là? Est-ce que c'était le désert total ou il s'est passé des trucs et tu as eu des déceptions? Tu vois, ça a été quoi les petits trucs qui se sont passés?
Ah ouais, il s'est passé quand même un certain nombre de choses. J'ai rencontré plusieurs mecs. Donc, quand les boîtes étaient encore ouvertes, j'ai rencontré un premier mec en boîte. Donc, première déception. Hein. Oui, bah, finalement, on se reverra pas. Et après, j'étais complètement réfractaire à m'inscrire sur des sites de rencontres, enfin, des applis de rencontres. Et finalement, je me suis dit, allez, on va tester. Et j'ai rencontré plusieurs personnes et à chaque fois ça a été en fait des déceptions. Alors soit des mecs que tu vois une fois et puis après oh bah finalement non, j'ai pas envie d'être en couple, je cherche rien de sérieux. Ou alors il y a aussi eu des mecs que j'ai vus, enfin deux personnes en fait que j'ai vues un peu plus longtemps sur 2, 3 mois et puis qui au final m'ont dit oh bah non, je tombe pas amoureux, j'arrive pas à m'attacher à toi. Et donc c'est en fait toutes ces expériences accumulées qui font que j'ai complètement perdu confiance en moi et confiance en ma capacité en fait à trouver quelqu'un qui me plaît et puis surtout à qui je plais et qui a envie d'être avec moi et puis de m'aimer.
Les personnes, ça a duré 2, 3 mois. Est-ce que toi, tu avais le même sentiment qu'eux ou toi, en fait, tu avais l'impression qu'il y avait une inégalité, que toi, tu étais à fond et eux non, par exemple?
Je dirais pas non plus que j'étais à fond, mais je dirais que je commençais un peu à m'attacher à ces personnes. Sans parler de sentiments amoureux, moi je ressentais quand même de l'affection pour eux. Et eux, en fait, ils n'étaient pas du tout investis. C'était voilà, je viens et je prends ce qu'il y a à prendre, je prends ce que tu me donnes et en retour, je ne donne pas. C'était vraiment un peu des personnes, je trouve, égoïstes, voilà, qui, comme je disais, prenaient en fait l'affection que j'allais apporter, mais qui, eux, en retour, donnaient pas vraiment, quoi.
Et est-ce que tu as l'impression que les personnes que tu as choisies donc, dans ta période de célibat, est-ce que tu as l'impression que tu les as choisies avec les mêmes critères ou les mêmes standards que les personnes avec qui tu as été en couple plus longtemps?
Ben franchement, non. Moi, je considère que je n'ai pas réellement de critères en fait pour une personne, que ce soit de critères physiques ou même au niveau moral. Enfin, y a quand même certaines valeurs forcément qu'on recherche chez d'autres personnes, mais je ne me suis pas fixée de critères spécifiques. Et quand je vois les mecs que j'ai rencontrés, c'était des gens très très différents, qui faisaient pas la même chose dans la vie, qui n'avaient pas du tout la même façon de voir les choses déjà entre eux, et puis aussi par rapport à mes ex, c'était pas du tout les mêmes profils.
Et toi, dans ces situations, c'est quoi qui te donne envie d'essayer quelque chose avec ces personnes plutôt que, enfin, plutôt que de, je sais pas, rester célibataire et de peut-être d'abord passer par, on apprend à se connaître, on voit un peu déjà si on se correspond avant de rentrer dans quelque chose qui ressemble plus à une relation.
Ben, disons que moi, là, avec les personnes que j'ai rencontrées, je suis pas du tout rentrée dans une relation. Je trouve que c'était juste plus, plutôt cette optique de vraiment, on apprend à se connaître. Enfin, je trouve, j'ai pas du tout parlé de couple, en fait, au bout de un mois. C'était quoi la question?
Moi, je sais plus. je buvais tes paroles. Tu vois. Attends, la question, c'était... je sais plus.
Je crois que tu me demandais pourquoi j'étais pas plus dans une optique d'apprendre à se connaître avant de vouloir être...
Oui, en fait, il y a peut-être un quiproquo sur... Enfin, tu vois, quand tu as parlé du fait que tu les voyais pendant 2-3 mois, enfin, après, tu veux peut-être pas rentrer dans les détails, mais... disons moi j'ai imaginé que vous voyiez fréquentiez régulièrement d'une façon qui est celle d'une relation genre pas juste amicale pas platonique en fait je pense que c'est un peu ça c'est la question de un truc platonique où on apprend à se connaître versus un truc où on apprend à se connaître qui n'est pas platonique.
Ouais non c'était pas platonique effectivement mais la dernière personne là que j'ai rencontrée qui s'est vraiment soldée par une grosse déception en fait on s'entendait bien enfin on passait des bons moments ensemble on rigolait bien etc mais moi je sentais bien que de son côté il y avait pas il donnait pas vraiment d'affection voilà il y avait pas des petits messages mignons pas de petits cœurs alors il m'a quand même offert une fleur pour mon anniversaire donc chose que j'ai pas comprise. Mais après, donc je lui ai demandé clairement en fait ce qu'il souhaitait, ce qu'il souhaitait plus ou pas. Et puis bah il a donné la réponse à laquelle je m'attendais. Donc je m'attache pas, j'ai pas de sentiments. Mais malgré tout, il m'a fait toute la liste de mes qualités en me disant que j'étais une personne super et que s'il pouvait appuyer sur un bouton pour que ça fonctionne, il le ferait. Donc je me suis dit mais dans ce cas-là, pourquoi on n'essaye pas en fait? Pourquoi il faudrait absolument être fou amoureux? Je sais pas, avant de pouvoir tenter quelque chose avec quelqu'un. Et ouais, du coup, ça m'a beaucoup déçue.
Ok. Tu disais entre tes deux relations de couple d'avant, tu as eu une petite phase, une petite période célibataire. Et là, du coup, ça fait un an et demi. Ça a duré combien de temps, la petite phase célibataire, entre tes deux autres relations?
C'est-à-dire entre les deux personnes avec qui j'ai été?
Ouais. En couple, les un an et demi et trois ans.
Pas très longtemps, en fait. Je dirais que c'était l'affaire de quelques semaines parce que, si tu veux, j'avais rencontré, en fait, mon deuxième copain alors que j'étais encore avec le premier copain. Bon, c'est pas très glorieux comme ça, mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé.
D'accord. Et du coup, t'as, dans la phase là dans laquelle tu es de célibat depuis un an et demi, tu as l'impression que c'est à partir de quel moment, parce que si je me rappelle bien, c'est toi qui as mis fin à la relation. Donc, c'est à quel moment que tu as commencé à souffrir du fait d'être célibataire, que tu as commencé à avoir ces pensées de je suis pas capable d'être aimée
assez rapidement, en fait. Je pense qu'au bout de un ou deux mois, c'était déjà difficile d'être seule. Mais quand est-ce que j'ai commencé à vraiment me dévaloriser? Je dirais que ça a pris quand même un peu plus de temps après plusieurs en fait déceptions et après m'être fait un peu jeter par plusieurs gars. Là, ça a commencé à me donner un peu une mauvaise image de moi-même contre laquelle je me bats encore. D'ailleurs, c'est encore, j'ai encore parfois ces pensées négatives qui tournent un peu en boucle.
Ok. Et tu parlais aussi tout à l'heure du fait que tu travailles sur toi. Tu as mentionné, malgré le travail sur soi, que tu continues d'avoir ces pensées, de souffrir. Tu fais quoi dans ce travail sur toi? Est-ce que tu as trouvé des exercices de développement personnel? C'est quoi tes ressources, tes outils?
Alors en fait déjà je suis une psychothérapie avec une psychiatre. Donc ça permet en fait déjà de parler de ces choses-là et d'avoir un regard en fait neutre et elle m'aide aussi à trouver certaines solutions à restructurer un peu mes pensées qui sont pas enfin mes pensées qui sont un peu dysfonctionnelles et à côté de ça il y a pas très longtemps en fait j'ai découvert totalement par hasard un podcast sur Spotify d'un philosophe qui s'appelle Charles Pépin. Donc c'est un philosophe contemporain, il fait en fait de la philosophie très pratique, c'est des choses très concrètes et il a notamment écrit un livre qui s'appelle La Rencontre. Donc après avoir entendu son interview, j'ai couru dans une librairie pour acheter ce livre et j'ai trouvé quand même pas mal de réponses dans ce livre et ça m'a aussi aidé à avoir une vision un peu plus positive des choses. Donc ça, c'est vrai que je le conseille du coup je conseille ce livre à tout le monde parce que c'est vraiment très intéressant.
Tu peux nous donner un ou deux trucs que tu te rappelles du livre qui sont intéressants?
Ouais, alors en fait, il explique un peu quelles sont les conditions pour rencontrer quelqu'un. Pour lui, en fait, une rencontre, une vraie rencontre, c'est quelque chose d'inattendu. C'est-à-dire que une vraie rencontre, ça va être, enfin, le plus souvent, ça va être avec une personne à qui on ne s'attendait pas. C'est-à-dire pas, oui, c'est le moment où tu t'y attendras le moins, c'est vraiment une personne que tu ne t'attendais pas à rencontrer comme ça et peut-être à tomber amoureuse de cette personne. Et donc, il dit qu'il ne faut pas avoir de critères trop précis et en fait, accueillir un peu la rencontre telle qu'elle se passe. C'est-à-dire qu'il prend l'exemple des personnes qui sont inscrites sur les applis ou les sites de rencontres et qui vont renseigner plein de critères. Alors, je veux un grand brun, aux yeux marrons, qui est, je ne sais pas, qui fait tel métier. Donc, lui, ce qu'il conseille de faire, c'est d'avoir un petit peu moins d'attentes précises pour rencontrer d'autres personnes, peut-être qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer. Donc, ça, c'est la première chose, accueillir l'inattendu. Et je réfléchis aussi à ce qu'il racontait d'autres. Il explique que pour rencontrer quelqu'un, il ne faut pas hésiter à sortir de soi-même. Donc ça va un peu avec le fait de rencontrer une personne inattendue, c'est-à-dire sortir de soi-même, c'est sortir de chez soi, mais aussi faire des choses, enfin développer un peu son jardin intérieur et découvrir d'autres choses, donc changer ses habitudes, aller découvrir des nouveaux livres qu'on n'a jamais lus, découvrir un nouveau style de musique. Et c'est un peu en multipliant ces différentes choses-là qu'on va peut-être avoir l'occasion de faire une rencontre à laquelle on aurait pu passer si on ne s'était pas intéressé à ces différentes choses. Je ne sais pas si c'est un peu clair tout ça.
Si, si, tout à fait. C'est intéressant parce que... C'est marrant parce que en fait, d'un côté, j'adhère et de l'autre, ça vient un peu en opposition à d'autres ressources que moi, je consulte. En fait, c'est pas vraiment en opposition, mais c'est plus dans la formulation, par exemple, quand il dit de ne pas être trop précis. Je comprends parce que c'est l'idée de... si tu te dis que la personne doit faire absolument tel métier et que tu te mets des œillères et que tu ne veux absolument pas voir ce qu'il y a en dehors, tu passes à côté de quelque chose d'autre. Mais tu vois, moi, par exemple, j'ai acheté un programme qui aide à faire un travail sur soi justement pour attirer à soi une relation saine et durable. Et c'est un peu l'inverse. C'est justement beaucoup, beaucoup réfléchir à ce qu'on tolère, ce qu'on ne tolère pas, un peu le périmètre, les limites de ce qu'on veut pour la relation. Et donc, c'est un peu l'opposé quelque part de la démarche, tu vois, dans le sens où tu vas venir détailler tout un tas de trucs. Mais à la fois, je pense que c'est compatible parce que tu peux tout à fait savoir ce que tu recherches d'un point de vue, par exemple, connaître tes, on va dire en français, drapeaux rouges de si la personne, elle a telle valeur ou qu'elle a tel genre de comportement et qu'elle ne veut pas changer, de se dire ça, par exemple, c'est un truc que je ne tolère pas. Mettons, de se dire, par exemple, je ne tolère pas que quelqu'un qui consomme de la drogue régulièrement. Ça peut être un truc comme ça. Et on peut tout à fait avoir ça, tout en étant ouvert au comment on va tomber sur cette personne et de pas rester enfermé dans un seul métier, peut-être un seul cercle. Là, ce que j'entends aussi dans son conseil, c'est... Ouais, c'est aussi de finalement un peu sortir de chez soi en mode tester des nouveaux trucs, des nouvelles activités. Et, parce que c'est comme ça que tu rencontres des gens en fait, des gens différents ouais, de ceux que tu connais déjà.
C'est tout à fait ça, mais effectivement, je ne pense pas que ce soit incompatible parce que tu peux savoir quelles sont les valeurs que tu attends chez une personne tout en rencontrant une personne à laquelle tu ne t'attendais pas. Je ne sais pas, imagine un jour je rencontre un mec qui a déjà un enfant, moi. Dans ma tête, je me dis que j'ai pas du tout envie d'être avec quelqu'un qui a un enfant, mais ça se trouve, le mec que je vais rencontrer et avec qui ça fonctionnera, il aura un enfant. Et donc après, bah, c'est à moi de décider si je l'accepte ou pas, si je prends l'amour là où il se présente, ou si, bah, comme ça répond pas à un de mes critères, bah, je décide de ne pas poursuivre.
Ouais. En tout cas, bah, merci pour le partage sur Charles Pépin, du coup. Toi, aujourd'hui, par rapport à comment tu te sens vis-à-vis du célibat, c'est quoi qui pourrait le plus t'aider? T'as l'impression que c'est de quoi dont tu aurais le plus besoin, qu'il ne soit pas être en couple, parce que du coup, on peut pas complètement contrôler cette partie, la rencontre, l'autre, etc. Mais donc, sans l'autre, donc dans le célibat, qu'est-ce qui pourrait t'aider aujourd'hui à te sentir mieux?
Bah, déjà, le fait d'avoir qu'il y ait ce podcast qui existe, je trouve que c'est positif parce que ça permet de voir, enfin de savoir qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation, qui souffrent peut-être aussi du célibat, et donc d'avoir d'autres témoignages et de se dire, ah bah, c'est peut-être pas moi en fait qui pose problème parce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation. Et je pense que ce qui pourrait m'aider aussi, ce serait bah, de rencontrer en fait d'autres personnes, des amis. Voilà, des personnes qui se montrent disponibles en fait, qui se rendent disponibles quand j'ai besoin de parler ou quand je propose d'aller faire quelque chose. Bon, et puis aussi la fin du confinement, ça pourrait aider pas mal, je pense.
Ouais, c'est sûr que ça, je pense, ça vient peser en plus sur tout le monde comme situation. Ça fait que rajouter quelque chose de négatif, quoi.
Ouais.
Moi, cette semaine, j'ai un peu inventé une expression, enfin, j'ai pas vraiment inventé quelque chose, mais par rapport à ce que tu dis sur, tu penses que quelque chose qui pourrait te faire du bien, c'est. Bah, de développer de nouvelles amitiés qui vont venir nourrir ton besoin d'avoir des gens qui sont motivés pour faire des sorties, d'avoir des confidents, etc. Comme moi, je suis dans la réflexion de comment est-ce qu'on peut avoir tout ça en tant que célibataire et donc pas via le couple, l'expression qui m'est venue, c'est de prendre la responsabilité de ses besoins. C'est-à-dire en fait, je pense qu'il y a deux grandes catégories dans notre souffrance en tant que célibataire. Il y en a une qui est, on a l'impression, donc on a des besoins qui ne sont pas nourris. Et on pense qu'ils seront nourris via avec un partenaire. Et la deuxième grande catégorie, c'est on a l'impression d'être des vilains petits canards anormaux qui n'arrivent pas à se faire aimer et qui n'arrivent pas à trouver quelqu'un quand tout le monde, quand à cet âge-là, on est censé avoir réussi. Et donc pour la première partie, voilà, moi, il y a cette notion de prendre la responsabilité de ses besoins. J'ai un peu eu ce truc cette semaine où je me suis dit, mais en fait, je suis responsable de mes besoins. Ça va pas être comblé par quelqu'un d'autre. En fait, tout ce qui me manque, je vais le lister et je vais trouver un moyen de l'obtenir, qu'il y ait quelqu'un avec moi ou pas. Et parce que, bon, j'ai même des personnes qui m'en ont témoigné. On peut même en couple avoir des besoins inassouvis. Et si on n'a pas du coup appris qu'il y avait d'autres moyens que l'autre pour venir les combler, bah forcément, on va reporter la responsabilité sur l'autre. Donc, je trouve que c'est important cette notion de prendre la responsabilité de ses besoins. Et après, pour l'autre partie sur le regard qu'on porte sur notre célibat, enfin, c'est pareil, toujours là dans cette semaine ou dans les 2 dernières semaines, je me suis dit, mais en fait, pour moi, la souffrance, donc la souffrance, c'est une émotion. L'émotion, elle est créée par des pensées. Et je me suis dit, donc en fait, pour supprimer l'émotion, il suffit enfin, pour changer l'émotion, il faut changer la pensée. Et finalement, c'est un truc qu'on contrôle parce que on peut décider de se dire, bah, en fait, à partir de maintenant, je vais considérer que ce n'est pas un problème d'être célibataire et je vais considérer qu'il n'y a pas de souci, qu'il n'est pas trop tard. En plus, enfin, tu vois, on a toutes les deux moins de la trentaine. Quelqu'un qui a 40 ans, ça devient plus on avance et plus ça devient difficile de réfléchir comme ça, parce que surtout si on veut des enfants, en fait, c'est la seule raison. Mais finalement, nous, quelque part, on a le temps. Et tu vois, bon, on n'a pas beaucoup de différences, mais quand je vois que toi, à 24 ans, tu te dis ça, je me dis, putain, mais elle a le temps, tu vois. Et je me dis, mais je sais que moi, je pensais exactement la même chose et je pense encore la même chose aujourd'hui, tu vois. Et il y a une autre personne qui m'a écrit sur Instagram qui a 17 ans et qui se dit la même chose. Et en fait, il n'y a pas d'âge pour ces croyances et ces pensées-là. Et quel que soit l'âge, elles nous font du mal. Donc, je pense qu'il y a ce truc à un moment, il faut réussir. C'est vraiment un truc intérieur de réussir à se dire, de s'auto-convaincre que ce n'est pas un problème. Et ça va de pair avec le fait de réussir à combler ses besoins, tu vois. Mais voilà, en tout cas, les deux points d'action pour moi, c'est voilà, comme l'exemple que tu as donné de donc lister ses besoins et trouver des moyens de venir essayer de les combler. Et dans un deuxième temps, essayer de changer ses pensées et d'arrêter en fait de ruminer le fait que c'est pas bon, enfin qu'on est des vilains petits canards et tout, parce qu'en fait, forcément, cette pensée, elle nous fait pas du bien.
Mmh, c'est clair.
Pour nous-mêmes, en fait, un des premiers trucs qu'on peut faire, c'est de changer ça, quoi.
Ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu as dit sur le fait de savoir remplir, enfin satisfaire ses besoins soi-même. Parce que je me dis, les personnes qui ont été en couple toute leur vie, à quel moment elles font après, le jour où elles se retrouvent toutes seules pour vivre seules, en fait, parce qu'elles ont toujours eu l'autre sur qui compter. Donc c'est vrai que le célibat, ça peut avoir aussi une certaine richesse de ce point de vue-là, de savoir quels sont nos besoins et de savoir les remplir par soi-même. Et puis par rapport aux pensées, oui, clairement, tu as raison. Enfin, je veux dire, moi, je sais que quand pendant 10 minutes, je vais continuer à me répéter, oui, bah, de toute façon, personne t'aime, personne t'aimera jamais, bah, je vais me sentir mal et donc ces pensées-là, elles ne servent à rien, quoi, à part me faire du mal. Ça ne sert à rien, mais ce n'est pas évident de réussir à les supprimer complètement. Et c'est vrai que je ressens. J'ai ressenti pas mal de, enfin pendant toute cette période de célibat, j'ai ressenti quand même pas mal de colère en fait. Bon, c'est pas forcément justifié, mais de colère en fait envers mes amies qui elles sont en couple. Et j'avais l'impression qu'elles comprenaient pas ce que je vivais. Quand je leur disais oui, je suis triste, machin, je suis toute seule, la réponse c'était bah c'est le moment de prendre du temps pour toi. Mais en fait, du temps pour moi, j'en ai toujours eu. Surtout depuis un an et demi, je n'ai que du temps pour moi. Et le temps où j'étais en couple, en fait, c'était des relations où on ne vivait pas ensemble. Souvent, on ne se voyait que les week-ends. Donc, j'ai toujours eu du temps pour moi. Et je me dis, quand on me dit ça, finalement, c'est une chose qu'elles projettent sur moi et qu'elles aimeraient bien avoir. Elles aimeraient bien avoir plus de temps pour elles. Alors que moi, je ne pense pas que ce soit mon cas, tu vois.
Très bonne remarque. Je ne l'avais pas vue comme ça. Mais c'est vrai, c'est sûrement vrai. Mais et tu vois, enfin là, ce truc de faut en profiter pour prendre du temps pour soi. Enfin, moi, je regarde pas mal je cherche des vidéos, tu sais, sur YouTube. La dernière fois, j'ai tapé, je sais pas, comment être un célibataire heureux ou un truc comme ça. Je suis tombée sur des vidéos et il y a toujours ce truc qui revient de au moins quand, enfin, être célibataire, c'est le moyen d'apprendre à se connaître, etc. Et en fait, moi, si tu veux, j'ai jamais eu de relation longue. Donc, à un moment, c'est bon, je me connais 100 fois mieux que tous les gens que je connais. Arrêtez de me dire qu'il faut que je fasse ça. Oui, c'est cool, tu vois, mais c'est bon, je vais pas. De toute façon, on n'a jamais fini de se connaître, tu vois, toute la vie. Et donc, c'est. Moi, il y a des trucs comme ça qu'on dit qui me. C'est, tu vois, tu parlais du fait qu'elles ne te comprennent pas, mais moi, c'est ça. Quand je vois ce conseil, j'ai envie de dire, mais. T'as pas compris ma situation en fait.
Et puis,
en fait, ça fait 10 ans que je fais du développement personnel. Je crois que c'est bon, tu vois.
Et puis, en étant en couple aussi, c'est aussi une manière d'apprendre à mieux se connaître parce que avec chaque personne qu'on va rencontrer, donc que ce soit des amis, un amoureux, on va apprendre quelque chose de différent sur soi-même. Donc, être tout seul toute sa vie, bah, c'est finalement aussi louper peut-être des parties de soi. Alors que quand t'es avec quelqu'un, t'apprends à te connaître. Je veux dire, moi, je vais pas avoir le même comportement avec une amie qu'avec une autre amie. Enfin, donc c'est aussi en étant à deux qu'on apprend à mieux se connaître.
Ouais, bah, je suis assez d'accord sur. Pardon, je suis en train de bouger en même temps pour aller allumer la lumière, n'est-ce pas? Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Après, enfin, moi, disons que je trouve qu'on peut apprendre à se connaître seul. On peut apprendre. Moi, je trouve qu'on peut même apprendre à se connaître par procuration. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis qui me racontent parfois comment ça se passe dans leur couple. Et en fait, d'entendre leur histoire, ça me fait me poser la question de tiens, moi, qu'est-ce que je penserais dans cette situation. Enfin, ça se fait un peu naturellement. Et moi, même si j'ai jamais été dans une relation longue, en fait, j'ai l'impression que quelque part, je sais déjà ce que j'en attends, je sais déjà un peu comment je me comporterai, parce que j'ai vu quand je vivais avec d'autres personnes qui n'étaient pas forcément un couple, comment je me comportais quand j'étais fatiguée, enfin, etc. Et donc, je pense qu'on peut apprendre à se connaître quand on est seul, quand on est en couple, quand on est en coloc même, enfin, voilà. Il y avait un truc aussi qui m'était venu sur. Ah oui, quand tu disais que tu voyais. Enfin, que tes amis ne te comprenaient pas et que dans tes relations, souvent vous voyiez que le week-end. Moi, je trouve qu'il y a deux choses qui sont un peu opposées, mais qui rendent le truc un peu compliqué. C'est que d'une part, je pense que l'être humain, on le dit, c'est un être social et donc ça paraît normal qu'il vienne chercher l'amour. Et je pense que l'amour, c'est un des plus gros trucs qui concerne l'être humain. En fait, on en a besoin pour survivre. Donc, d'un côté, ça paraît normal qu'on ait cette envie et ce besoin d'être avec quelqu'un. Mais de l'autre, en fait, moi, je me demande si le problème ne vient pas de la. Enfin, tu vas peut-être pouvoir me dire, vu que justement, toi, tu as été en couple. Moi, personnellement, vu que je n'ai pas été en relation, ce qui me fait souffrir, c'est la version fantasmée du couple. C'est de me dire. D'après tout ce que je vois, d'après ce que les autres me racontent, ce que je vois dans les films, en gros, tout ce que j'ai pu observer dans ma vie, je me suis forgé une image de ce que c'est être en couple. Et donc, j'imagine qu'il va se passer ci, il va se passer ça. En gros, il y a une forme d'anticipation et de tu t'imagines le truc. Et du coup, moi, finalement, ma souffrance en tant que célibataire qui n'a jamais été en relation, elle vient du fait que de la différence entre ce que je projette de positif dans la relation versus ce que je vis négativement en tant que célibataire. Toi, qui du coup as connu des relations, tu vois, est-ce que tu peux faire le parallèle? Toi, ça, à ton avis, elle est causée par quoi ta souffrance?
Question facile si je le savais. Mais c'est vrai que quand j'y repense, quand j'étais en couple, j'avais pas non plus un sentiment de satisfaction et de bonheur total. Il y avait quand même des choses qui restaient difficiles. Donc c'est vrai que c'est pas parce qu'on est en couple que le monde va être tout beau, tout rose, que tout va bien aller, qu'il y aura plus de soucis. Après, moi, ça renvoie à un questionnement en fait un peu peut-être enfin existentiel où en fait je pense que j'ai besoin d'avoir le sentiment que j'existe et que j'existe pour les autres. Et donc quand j'étais en couple, bah, j'existais vraiment pour quelqu'un. Maintenant que je ne le suis plus, j'ai moins ce sentiment d'exister pour quelqu'un, d'être spécial pour une autre personne. Et du coup, il y a peut-être ça qui me fait un peu souffrir. C'est le fait de ne plus avoir ce sentiment-là, mais j'essaie de comprendre pourquoi j'ai besoin fondamentalement de ce sentiment d'exister, mais j'ai pas encore la réponse.
Waouh, c'est super intéressant, j'avais jamais entendu ça. Enfin, du coup, en fait, quand tu as dit ça, je me suis dit, tiens, ben moi, quelque part, j'ai le sentiment d'exister dans mon travail parce que j'ai des gens qui me suivent. Et du coup, toi, c'est quoi ton boulot?
Je suis psychologue. Donc, c'est vrai que le sentiment d'exister, oui, je l'ai aussi à travers mon travail. C'est vrai que c'est un moyen de combler un peu ce besoin, mais ça ne permet pas de le combler pleinement.
Oui, t'as peut-être. Enfin, il y a une différence entre exister pour quelqu'un et avoir le sentiment d'être spécial. Il y a peut-être la relation peut-être que tu as avec les gens qui viennent en séance, te donne peut-être pas ce sentiment d'être spécial. C'est donc oui, grosse question existentielle, mais bah moi je vais partir avec et méditer là-dessus. Mais ouais, parce que c'est vrai que quand j'y pense. Quand moi je projette ce que j'imagine du couple, il y a vraiment cette notion de, tu l'as dit aussi tout à l'heure, de quelqu'un sur qui tu peux toujours compter. Il y a cette notion de être quelqu'un de spécial. Après, quelque part, on est spéciaux pour nos parents, pour nos frères et sœurs, pour nos meilleurs amis, mais enfin, c'est comme si on le ressentait pas de la même façon. C'est bizarre.
Ouais, je saurais pas vraiment expliquer pourquoi. Bah c'est vrai qu'après, quand on est en couple, la personne avec qui on est va nous envoyer souvent des messages, va nous dire je t'aime. Alors on peut dire je t'aime à ses amis, mais c'est vrai que les sentiments qu'on a pour ses amis, c'est pas la même chose que les sentiments amoureux, quoi. Je sais pas, les sentiments amoureux, ça prend, je pense, encore plus de place. Après, moi, je connais pas l'amour d'une mère, je ne suis pas ma maman, donc je sais pas, peut-être que l'amour d'une mère, c'est encore plus important que l'amour qu'on peut avoir pour un homme ou une femme. Mais ouais. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de spécial en fait dans l'amour pour une personne de l'autre sexe ou même du même sexe que soi, selon ses préférences.
Ouais. j'invite tous ceux qui écoutent à partir avec cette question existentielle est-ce qu'on a besoin d'être spécial pour quelqu'un et comment se sentir exister et spécial pour quelqu'un. Au-delà de Charles Pépin, est-ce que il y a d'autres trucs qui toi t'ont aidé ou t'as des donc soit des ressources soit des conseils que tu pourrais partager?
Oui, c'est vrai que ça, c'est peut-être un truc que j'ai un peu oublié de développer. C'est vrai que moi, j'essaie de développer peut-être des loisirs, des centres d'intérêt qui permettent aussi de s'occuper l'esprit et voilà, d'être aussi satisfait de soi-même. Donc moi, j'investis beaucoup, beaucoup la musique. Donc je fais de la musique et puis le fait de pratiquer, ça me permet, voilà, quand je fais de la musique, je pense pas à toutes ces choses négatives. Ça me procure aussi beaucoup d'émotions quand j'écoute une musique ou même ouais, de s'intéresser à d'autres choses. Par exemple, moi, je suis sensible à la cause environnementale, donc j'aime bien en fait m'émouvoir que ce soit devant des documentaires ou des films. Par exemple, la dernière fois, j'ai regardé les documentaires de Yann Arthus-Bertrand moi, je l'ai complètement pleuré devant et j'adore en fait ces moments-là où je m'émeus simplement d'un film, même des films d'amour. J'aime bien regarder les films à l'eau de rose aussi, rêver de ça en attendant de trouver mon histoire d'amour.
Ben, je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que tu as parlé donc, du fait de faire des activités qui nous plaisent et qui nous font, je sais pas comment tu l'as formulé, mais pour moi, ma formulation, c'est sortir du mental. Moi, il y a quelques temps, là, il y a 2, 3 semaines, je me suis remise au sport dans le sens où je me suis lancé un défi de faire de la corde à sauter tous les jours. Et en fait, dès les 3 premiers jours, l'effet le plus important que j'ai observé de ça, c'est que mon état émotionnel, il a vachement augmenté. Et je sens qu'en fait, je ne sais pas quelle partie du sport fait ça. Quand on fait du sport, ça diffuse des hormones du bonheur. Donc, c'est peut-être tout simplement ces hormones-là. Mais en tout cas, depuis que j'ai commencé ça, je sens qu'intérieurement, je me sens plus forte, plus ancrée, j'ai plus confiance en moi, mais tu sais, cette confiance qui te permet d'être assertif, c'est-à-dire de quand quelqu'un fait quelque chose qui te déplaît, de le dire plus facilement, mais sans être dans l'agression, mais de poser plus facilement ses limites. Et moi, ça m'a fait du bien en fait de faire du sport et d'autres activités qui me permettent de sortir du mental, parce que c'est vrai que plus tu es sur ton canapé à avoir le temps et l'espace de réfléchir, plus tu peux finalement reporter ton attention sur le fait que tu n'es pas bien, le fait que tu es seul et tout ce qui ne va pas. Et donc, ouais, sortir, s'occuper l'esprit, c'est ça que tu as dit, je crois, s'occuper l'esprit, que ce soit avec le sport ou voilà les autres trucs que toi, tu as cités. Moi, la dernière fois aussi, j'ai refait un gros rangement de mon appart pendant 3 heures. Et pendant les 3 heures, t'es ailleurs, le monde n'existe plus, tu vois, et tu sors de là, tu fais, waouh, je me sens bien, j'étais dans le flow. Donc, je pense que c'est bien de trouver des moyens de sortir de son mental, ouais, et être moins accroché à ses pensées négatives.
J'en profite pour donner mon point de vue de psychologue. C'est vrai que en fait, les personnes, par exemple, qui vont être déprimées, bon, nous, c'est pas forcément notre cas, on n'est pas forcément en dépression, ni les personnes qui écoutent, mais si on fait rien, en fait, on va être dans ces ruminations, donc ces ruminations voilà, de pensées négatives. Et en fait, le fait de faire des choses, même de faire du sport, le sport, c'est très recommandé dans le traitement de la dépression. Ça permet en fait de sortir de ces ruminations négatives, du cercle vicieux des ruminations, et voilà, de faire autre chose. Et le sport, effectivement, ça permet de sécréter des hormones qui procurent du plaisir. Donc c'est pour ça qu'après on se sent bien. Mais ouais, ça, je pense que le sport, ça peut être aussi une bonne option.
Mais je pense qu'il faut trouver un sport quand même qu'on aime bien parce que si c'est
Oui.
trop dur, après, dans la balance, ça va plus.
Si c'est un truc qu'on n'aime pas faire,
Ouais.
oui.
Du coup, moi, je suis passée à 1 jour sur 2 hein, pour la corde à sauter parce que tous les jours, c'est trop.
Ouais, c'est déjà pas mal,
Ouais, et au final, comme ça, je m'amuse, je suis contente de retrouver ça. Donc,
hein.
ouais, donc on recommande ça toutes les deux alors. Cool,
Mais
Bem. Ouais,
Ça me fait
t'avais.
penser, pardon, ça m'a
Ouais,
fait
vas-y.
penser un peu à un autre truc. Je ne sais pas si toi, on t'a déjà dit, oh, mais je ne comprends pas pourquoi tu es célibataire, pourtant tu es belle, tu es intelligente, mais je ne comprends pas. Et moi, quand on me dit ce truc-là, mais j'ai juste envie de frapper, quoi, parce que la preuve, c'est absurde. Il ne suffit pas, en fait, d'être belle ou je ne sais quoi, en fait, pour trouver quelqu'un. Enfin, je ne sais pas, soit si tu as déjà eu ces remarques-là ou pas.
Je les ai déjà eues, mais je pense que là, depuis quelque temps, les gens, ils me disent plus rien, tu vois.
Ils n'osent plus.
Mais non, mais après, et si on pousse le truc, ça c'est la première étape, ce que tu dis. Et l'étape au-dessus, c'est en gros, tu as tout pour toi, mais t'en demandes trop en fait. Et en gros, tu es trop haute qualité. Tu devrais descendre d'un cran pour t'adapter au monde.
Tu es trop bien pour être en couple.
C'est trop, ouais, c'est ça. Et bon, moi, je pense que bah, je l'ai cru pendant un temps. J'ai vu qu'on m'avait dit ça, bah, je l'ai cru. Et ça m'a forcément pas du tout aidé. Et donc, c'est pour ça que moi, maintenant, je me suis plus rapprochée de personnes. Bon, je trouve plus des ressources américaines que françaises là-dessus. Mais tu vois, c'est des personnes qui sont vraiment sur. Non, il n'y a jamais de trop, il n'y a jamais d'être trop exigeant. Au contraire, c'est bien de savoir ce qu'on veut. C'est juste que forcément, plus tu sais ce que tu veux et plus tu vas rejeter ce qui ne te convient pas. Mais bon, après, bah, un autre truc aussi auquel je me suis reconnectée cette semaine, c'est la loi de l'attraction. Je ne sais pas si tu connais.
Oui, je connais un peu le principe.
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe de la loi de l'attraction, c'est on attire ce qu'on est. Et typiquement, ça vaut pour les pensées. Donc, typiquement, en fait, c'est ce sur quoi on porte l'attention qui va se manifester dans la vie réelle. Avec les gens qui croient dans la loi de l'attraction et qui sont dans ce truc-là, on est sur, non, en fait, il n'y a jamais de trop. On considère qu'on veut ça. On ne pense qu'à ça de cette façon-là. Et c'est ça qui va arriver. Et tant qu'on attire autre chose, c'est qu'on n'a pas eu suffisamment de pensée ou on n'a pas passé assez de temps à penser au côté, enfin, à ce qu'on veut. On a trop pensé à ce qu'on ne voulait pas, on n'a pas assez pensé à ce qu'on veut.
Ouais. Bah après, c'est vrai que ça va, du coup, ça va pas trop dans le sens, moi, du bouquin auquel je me suis référée là, ces derniers temps, La rencontre de Charles Pépin, où lui, il explique que justement, il parle d'ailleurs de la loi de l'attraction, et lui, il dit qu'il n'est pas vraiment d'accord avec ça, parce que pour lui, en fait, le hasard, ça se crée aussi. Les rencontres, en fait, elles se préparent. Il expliquait que voilà, le temps de confinement, c'est un moment de préparer ses rencontres futures. Donc, ouais. Après, ça peut être intéressant à un certain point de vue, mais ouais, le hasard, ça peut se créer aussi, les opportunités se créent.
Mais du coup, en quoi est-ce que. Enfin, du coup, il dit quoi sur la loi de l'attraction? En quoi, en gros, c'est quelle partie qu'il trouve qui ne fonctionne pas? Parce que je n'ai pas trop compris.
Ouais, alors je saurais même plus expliquer exactement comment il raconte ça, mais il dit, enfin, pour lui, en fait, c'est pas juste en pensant à une chose qu'elle va se produire. Il faut justement mieux agir pour essayer de voir les choses se produire. C'est pas la pensée en elle-même qui va
D'accord, je
aider les choses
comprends.
à se produire, mais c'est plus par notre action, en tentant des choses.
D'accord. Alors, je pense qu'il lui manque peut-être un bout de la loi de l'attraction parce que clairement, la loi de l'attraction, comme disent ceux qui en parlent, tu peux pas attirer les choses à toi juste depuis ton canapé. Enfin,
Oui,
en fait,
ce serait bien.
quelque part, tu peux dans le sens où tes pensées, en fait, dans la loi de l'attraction, ils te disent de prendre un moment pour toi un peu tous les jours pour penser. Donc là, tu peux le faire depuis ton canapé. Mais derrière, ce qu'ils recommandent, c'est plutôt d'être dans enfin, en gros, dans l'expérience de la vie, quoi, de la vie terrestre, enfin, tout ce qui nous plaît, et d'être surtout à l'écoute des émotions, parce qu'ils disent qu'en gros, quand tu as les émotions positives, c'est que tu es sur la bonne voie pour attirer ce que tu veux. Quand tu es dans les émotions négatives, tu es en contradiction avec ce que tu veux attirer, et donc il faut que tu rectifies le tir. Ce qui paraît cohérent, même sans la loi de l'attraction, ça paraît assez logique qu'une expérience qui nous paraît positive, on a envie d'aller d'autant plus là-dedans, qui est négative, non.
Après, ça me revient, mais c'est vrai que la critique, elle était plus là-dedans, dans le fait de dire qu'on ne peut pas avoir tout le temps des pensées positives et que les choses négatives, ça fait aussi partie de la vie. Et du coup, si, bon là, c'est poussé à l'extrême, hein, mais si on se dit oui, c'est parce que j'y ai pas assez pensé que ça ne s'est pas produit, ça a aussi quelque chose d'un peu culpabilisant, quoi.
C'est vrai, et c'est vrai. Et en plus, de l'avoir formulé comme ça, c'est vrai que ça donne cette impression. En fait, là, j'ai lu un bout, enfin, du livre ce matin, et justement, ce qu'il disait, c'est il disait qu'on ne pouvait pas trop contrôler les pensées. On ne peut pas décider ce qu'on pense, parce que la pensée est déjà passée, en fait. Donc, si on a pensé un truc négatif, c'est déjà trop tard. C'est déjà passé. Tout ce qu'on peut faire, c'est de, derrière, on va dire, compenser en remettant l'attention sur autre chose. Donc, dès que, par exemple, mettons, j'ai la pensée qui me traverse de oh là là, je suis seule, je suis triste, je ne suis pas bien, c'est de prendre conscience qu'on a eu cette pensée, de se dire OK, je vais rediriger mon attention vers un truc qui me fait du bien. Donc, je vais penser à je sais pas à quel point mon voyage prochain toute seule, il va être trop bien, ou je pense à ma relation idéale et je rêvasse comme ça. Donc, c'est plus une question de rediriger les pensées que effectivement de les empêcher parce qu'elles ne sont pas vraiment empêchables.
Ouais, et je pense qu'avoir des projets aussi, c'est des choses qui sont importantes pour se sentir bien, même si c'est des petits projets. Juste se dire, oh, bah, ce week-end, je vais aller, je sais pas, je vais aller chez une amie, on va faire un jeu de société. Alors, rien qu'avoir un projet à court terme, je trouve que c'est quelque chose qui aide aussi. Enfin, moi, c'est mon expérience ces derniers temps, où quand je sais que je vais avoir quelque chose dans quelques jours, en fait, ça me permet de me sentir mieux et de savoir que je vais passer un bon moment. Donc, continuer, en fait, à faire des projets, même si c'est des petites choses. Et puis, ne pas attendre les autres pour faire des projets. Par exemple, moi, je sais que je suis jamais partie en week-end ou en vacances toute seule et je me dis, bah, c'est peut-être le moment de le faire, de continuer enfin, de vivre, en fait, sans attendre les autres pour vivre les choses, quoi.
Ouais, carrément. Je suis d'accord avec tout ça. Ben écoute, merci pour ces ajouts de conseils, ouais, pour tous ceux qui nous écoutent. Et merci pour ton témoignage, de t'être prêté au jeu. Et ben merci aussi à tous ceux qui ont écouté. Et on se dit à bientôt dans un prochain épisode.
Viens discuter de cet épisode du célibat sous le post dédié sur le compte Instagram @podcastcélibataire. Tu peux aussi m'écrire en privé sur Instagram si tu as envie d'échanger. N'hésite pas aussi à me dire si tu es partant ou partante pour témoigner sur le podcast. Merci encore à toi d'avoir écouté et à bientôt.